Bonjour, c'est aujourd'hui une très grande fête pour nous au Québec, c'est la fête des saints martyrs jésuites, dont deux, soyez peut-être un peu surpris, deux étaient en fait des laïcs, hein, René Goupil et Jean de Lalande, et les autres étaient prêtres, des jésuites. Ce sont des héros du début de notre pays, des hommes d'une grande foi, dont plusieurs venaient de Paris, hein, c'est surprenant, et qui ont été d'un courage qui a fait que de nombreux auteurs ont écrit des livres, l'un paru en 1925 que j'ai dans ma bibliothèque, de Frédéric Rouvier, jésuite, les bienheureux martyrs de la Compagnie de Jésus, et ils ont été canonisés toutefois 5 ans plus tard, en 1930. Ce sont des saints, pour ma part, que j'admire depuis mon enfance, ayant fait mes études au collège Jean de Brébeuf, le plus illustre de tous ces martyrs. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je dirais que bien peu de Canadiens et de nouveaux Québécois, bien peu d'entre eux, connaissent ces hommes remarquables, bien qu'ils aient été martyrisés, surtout en ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ontario. C'était autrefois le Canada, quoi, et nos ancêtres étaient les Canadiens, mais il n'y avait que les Amérindiens et nous. Et ça s'est déroulé au 17e siècle, dans les années, donc, 1600, au moment où, pour la plupart d'entre nous, nos ancêtres sont arrivés. Et cette épopée des missionnaires jésuites, c'est aussi l'épopée des missionnaires récollets ou franciscains. C'est l'épopée des sœurs hospitalières, de Jeanne Mance, cette laïque admirable qui a fondé l'Hôtel-Dieu de Montréal. C'est l'épopée des Ursulines avec Marie de l'Incarnation. C'est une époque marquée aussi par de nombreux laïcs donnés, oblats, qui se sacrifiaient avec joie auprès de ces communautés, mais il y a aussi tous ceux qui se sont mariés et qui ont eu des enfants et qui ont combattu le combat de la colonisation, de l'établissement d'un pays tout le long du fleuve Saint-Laurent et qui ont laissé leur nom, nous les portons aujourd'hui avec fierté ces noms. Ces noms de gens qui ont été très simples, souvent ne sachant ni lire ni écrire, et venant de Normandie ou de Champagne, comme mon ancêtre Jean, et qui ont été des hommes pour la plupart et des femmes pour la plupart joyeux, sans doute un peu pécheurs, mais souvent bien croyants et bien attachés à cette église chrétienne qui s'est établie ici, dans l'espoir d'aider les indigènes à sortir de la sorcellerie et des innombrables superstitions dans lesquelles, inévitablement, malgré leurs très belles qualités, qui ont été relevées d'ailleurs par les jésuites, malgré leurs qualités, ils avaient sombré dans toutes sortes de choses, comme nous sommes tentés nous-mêmes aujourd'hui de sombrer, un cas de superstition de nos jours, même à Montréal, on voit ça à la télévision, tous ces marchands de superstition. Alors on n'a rien à envier, si on peut dire, sur le plan des superstitions, à nos frères amérindiens avec lesquels nous avons eu des contacts énormes, nous, les Canadiens français d'origine, les Québécois. Moi-même, j'ai du sang amérindien, j'ai une ancêtre abénakise qui s'appelait Manitouabewitch. Manitou qui veut dire Dieu, Manitouabewitch, qui s'était marié à l'église Notre-Dame avec un de mes ancêtres. Et alors, cette épopée fantastique qui a eu lieu sur les rives du Saint-Laurent et dans le sud de l'Ontario, et évidemment dans la grande partie de l'Amérique du Nord, puisque l'Amérique du Nord nous appartenait. Québec était maître de toute cette région qui s'étendait jusqu'au golfe du Mexique. Je le dis, ce sont des évidences pour la plupart d'entre nous, mais je le dis au cas où il y aurait des gens qui sont arrivés plus récemment dans notre pays, et nous sommes heureux de les accueillir et de les avoir parmi nous, et ils nous apportent tellement souvent, tellement que on ne saurait assez les remercier. Et souvent, ils ne connaissent pas suffisamment notre histoire. Nous avons appris à l'école les paroles, souvent malheureuses, de ceux qui, en France, ont préféré la paix dans notre pays, qui ne tenait pas à se battre, comme on dit, pour quelques arpents de neige, c'est Voltaire. Mais ce qu'on devrait apprendre 100 000 fois plus, c'est l'héroïsme de ces gens. Combien d'entre nous ignorent les exploits des grands découvreurs, les découvreurs du Mississippi, c'est nous, ça. Marquette, Cavelier de la Salle, Joliette, et toute cette épopée mystique des religieuses et des missionnaires qui ont renoncé à tout pour aller porter ici la lumière de Jésus-Christ. Les textes de l'Évangile, les textes des Épîtres, les pensées des grands saints de l'histoire de l'Église, afin de créer ici un nouveau pays de langue française. Et ce nouveau pays de langue française, on le doit en grande partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux Ursulines et aux Hospitalières, aux Récollets et aux Jésuites, mais aussi, je ne voudrais pas les oublier, aux Sulpiciens qui ont fondé Montréal, qui sont les vrais fondateurs de Montréal, avec Monsieur Chemedé de Maisonneuve. Les premiers établissements français ont suivi d'assez loin la découverte du Canada par Jacques Cartier en 1534. À la fin du XVIe siècle, saviez-vous qu'il y avait quelques colons protestants, des calvinistes pour la plupart, qui se sont installés sur les côtes de l'Acadie et qui ont été suivis bientôt par des missionnaires, mais cet essai n'a pas été heureux et il a fallu attendre la nomination de Samuel de Champlain, dont la femme, toute jeune de 16 ans, Hélène Boulay, c'est à elle qu'on doit le nom de l'île Sainte-Hélène. Donc Samuel de Champlain, qui était nommé au poste de gouverneur pour assister au démarrage là, en 1608, eh bien, sa femme, Hélène Boulay, était calviniste. Elle est devenue catholique. Souvent, l'épouse prenait la religion de son mari. Les calvinistes étaient des protestants, disciples de Jean Calvin, dont un jour je vous parlerai, car il y a de très beaux aspects chez Jean Calvin. Souvent, nous, catholiques, nous avons des petits frissons en entendant ces noms. Il faudrait pas. J'aimerais bien que les auditeurs de Rencontres spirituelles apprennent à apprécier à leur juste valeur ces grands réformateurs du christianisme qui ont cru bon de séparer l'Église, de se séparer de la grande Église catholique, afin, dans leur perspective à eux, de mieux vivre l'Évangile et de se rapprocher davantage de Jésus-Christ. C'est leur point de vue, je ne le partage pas, mais je le respecte profondément, profondément. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les intentions positives qu'ils ont eues dans leur façon de protester. Pas pour d'autres aspects négatifs et parfois qui ont entraîné des guerres et des guerres de religion pénibles. Mais nous sommes, nous, catholiques, aussi responsables de bien des malheurs. Donc, en 1608, en remontant le fleuve Saint-Laurent, qui avait été baptisé ainsi par Jacques Cartier au siècle précédent, Samuel de Champlain a repéré, comme on sait, ce grand promontoire, le Cap Diamant, qui s'avance dans le fleuve en formant un détroit à Québec. Il y a jeté là les fondations de la ville de Québec qui a grandi modestement. Quand elle a été prise par qui? Déjà par les Anglais qui ont conquis notre pays en 1629, les frères Kirk. Hein? Et ce fut terrible. Brébeuf en a beaucoup souffert, le père Brébeuf. Il a dû retourner en France. Les Jésuites et les Récollets, qui étaient les Franciscains, qu'on appelle aujourd'hui, avaient déjà évangélisé notre pays. Ils avaient converti beaucoup d'Amérindiens. Et alors là, le traité de Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye, en 1632, a rendu le Canada aux Français. Et ainsi a permis le retour des Jésuites qui se sont empressés d'en profiter. Et grâce à l'appui du cardinal Richelieu et du grand courant réformateur qui soulevait la France catholique sous Louis XIII, eh bien, l'évangélisation du Canada allait reprendre de plus belle. Et on a assisté à une croisade contre les étranges superstitions des Amérindiens, ce qui les maintenait dans des ténèbres terribles. Il faut lire les textes de l'époque, particulièrement les relations des Jésuites. Oh, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise ça de la religion des Amérindiens, mais il faut quand même être capable de regarder ce qui est, ainsi que pour nous, que l'on appelle des Blancs, d'origine européenne, nous avons aussi nos superstitions, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont grandissantes actuellement, et qui nous maintiennent dans des états invraisemblables, de torpeur spirituelle. Il fallait lutter aussi contre ce que l'on appelait à l'époque l'hérésie protestante des Anglais. Faut voir comment les gens parlaient à l'époque, comment les gens voyaient les choses. Aujourd'hui, on ne dirait jamais ça. On parle plutôt de nos frères protestants. On sait qu'ils ne croient pas les choses que l'Église catholique enseigne sur certains points, mais on sait combien ils croient avec feu et avec flamme, souvent, les mêmes choses que nous. Ils sont nos frères chrétiens, ayant reçu l'unique baptême. Les Jésuites ont retrouvé à Québec la première et unique famille de Français habitués en Canada, comme ils disaient. Mais d'autres Jésuites allaient les rejoindre et former ce qu'on appelle l'embryon du Canada français sur le plan de l'évangélisation, mais aussi beaucoup de laïcs sont venus. Et en 1633, débarquaient avec Champlain deux vétérans jésuites, les pères Edmond Massé et Jean de Brébeuf, qui revenaient. Les pères Lejeune, le père Denoux, le père Buret, les avaient précédés. Connaissez-vous ces noms? Des héros dont je vous parlerai un jour, des hommes extraordinaires et d'autres allaient suivre. Et ça a porté l'effectif à 23 prêtres et 6 frères coadjuteurs auxquels se sont adjoints des colons à la foi solide que l'on appelait les donnés. Ce sont des laïcs qui étaient comme des oblats, si on veut. Pas des oblats comme ceux des oblats de Marie Immaculée, mais des donnés, comme moi je suis oblat de Saint-Benoît-du-Lac, un tout petit donné de rien du tout, mais les donnés dans le temps, c'était vraiment des gens qui se consacraient toute leur vie. Au début, à l'imitation des fameuses réductions du Paraguay, et un jour je vous parlerai de ces jésuites du Paraguay, vous avez vu, je l'espère, le film Mission, ou Mission en anglais, qui relate justement l'épopée, l'extraordinaire aventure des jésuites au Paraguay en Amérique du Sud, où ils avaient essayé de fixer les Amérindiens de ce pays En instruisant les enfants dans un séminaire et même en leur apprenant à jouer du violon de façon magistrale et en leur enseignant des langues et en les civilisant, oui, pourquoi pas, les civilisant, les sortant d'une vie très limitée pour les faire entrer dans un monde de culture et pourquoi pas. Nos ancêtres à nous vivaient dans des cavernes en Europe, hein, il y a 2000, 3000 ans. Et c'est pas nécessaire de penser que pour vivre vraiment, nous devrions retourner dans des cavernes, porter nos chefs sur des boucliers et se mettre des cornes sur la tête comme nos ancêtres les Gaulois. Je crois que des Amérindiens comme Jean-Paul Nollet, qui a été chef annonceur à Radio-Canada et qui s'appelait de son vrai nom Jean-Paul Obomsawin, et d'autres comme Miracri, ont beaucoup apporté et apportent beaucoup à notre pays, ces Amérindiens qui ont su acquérir des éléments de cette civilisation universelle, tout en demeurant fidèles à certaines de leurs traditions qui les rend fiers. Les conditions à l'époque étaient tout autres au Québec, très différentes de celles du Paraguay. Parce qu'il y avait une humeur très, très, très vagabonde, un sentiment de coureur des bois, dirait-on, chez les Hurons, qui nous aimaient passablement et que l'on aimait beaucoup. Ça s'accommodait mal avec la contrainte qu'on essayait de leur imposer malgré nous, afin de les arracher à leur vie trop volage, si on peut dire. Alors, heureusement, on n'a pas attendu l'échec pour entreprendre des méthodes beaucoup plus actives, hein, qui avaient déjà été essayées par les franciscains. Un de ces franciscains, c'était le fameux père Viel, vous le connaissez, j'espère. Alors, peut-être que les plus nouvelles arrivées le connaissent moins. Le père Viel, Nicolas Viel, il avait trouvé la mort, lui, ce franciscain, au retour de grands voyages apostoliques parmi les Amérindiens, hein, il a été précipité par des Hurons, des Amérindiens, qui étaient de ses amis, mais qui n'étaient pas convertis, mais il avait avec lui un converti qui s'appelait Ahuntsic. Et nous sommes ici, nous, en train de vous parler de cette région qui s'appelle Ahuntsic, en l'honneur de ce Huron, qui, avec le père Nicolas Viel, a été précipité dans les eaux de la rivière des Prairies, à Rivière des Prairies, justement, à l'endroit que l'on appelle, justement, le saut au Récollet, en mémoire du père Viel. Le saviez-vous? C'est arrivé, ça, le 25 juin 1624. Ça va faire 400 ans, dans quelques 25 ans. D'ailleurs, devant l'église de la Visitation, qui est située le long de la rivière des Prairies, et qui est la paroisse de notre confrère ici, Gilbert Charron, qui a son émission de 14h à 16h chaque jour, du lundi au vendredi, grande émission fort populaire, avec ligne ouverte, eh bien, il y a deux monuments qui ont été construits là, en 1903, à la mémoire du père Nicolas Viel et de ce jeune Huron catholique, Ahuntsic. Nicolas Viel est considéré comme le premier martyr des Amérindiens. Le père de Brébeuf, Jean de Brébeuf, connaissait lui aussi ses grandes randonnées apostoliques parmi les Amérindiens. Il était mêlé à leur vie, et dès octobre 1625, il avait accompagné une tribu de Hurons pour s'initier à leur langue et à leur mœurs. Il eut ce qu'il désirait et a partagé l'inconfort de leur hutte. Il a été dévoré par la vermine et il a été suffoqué par la fumée. Pourquoi? Parce que dans les tentes où il fallait s'abriter contre le vent, contre la pluie, contre la neige, contre le froid, eh bien vous savez que ces tentes étaient fermées et qu'il n'y avait ce qu'on appelle un évent, accent aigu, V-E-N-T, en haut. De la tente, c'était pratiqué donc dans le sommet, et c'était la seule issue, et la fumée régnait là-dedans. Dans les longues cabanes, d'autre part, où s'abritaient plusieurs familles, on n'était pas mieux, hein, Il y avait, disons, une poutre qui était portée par des perches, hein, puis ça servait à tendre des peaux et des écorces de bouleau, et ça, ça abritait tout le monde contre les intempéries. Alors les ouvertures étaient aux extrémités. Et on peut lire dans les textes des Jésuites le texte qui suit. « Dans une cabane, il y a plusieurs feux. » C'est plutôt le franciscain Sagard qui raconte ça. « Dans une cabane, il y a plusieurs feux. » Et à chaque feu, deux ménages, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Telle cabane aura 8, 10 ou 12 feux, ce qui fait 24 ménages. Alors vous imaginez la fumée. Les missionnaires partageaient cette vie, dont ils ont donné de nombreuses descriptions dans les fameuses relations des jésuites que j'ai chez moi. C'est fascinant à lire. Je vous en lirai un passage tout à l'heure. Ce sont des sortes d'annales, si on veut, de la propagation de la foi qu'ils envoyaient en France, et ils y entretenaient l'ardeur missionnaire et attiraient des dons pour les aider car ils avaient besoin d'aide. Mais dans celle de 1634, le père Lejeune, jésuite, écrit « Vous ne sauriez rester debout dans cette maison tant pour sa bassesse que pour la fumée qui suffoquerait. » Et par conséquent, il faut toujours être assis ou couché sur la plate terre. C'est la posture ordinaire des sauvages. Et de sortir dehors, le froid, la neige, le danger de s'égarer dans ces grands bois, nous font rentrer plus vite que le vent. Ils nous tiennent en prison dans un cachot qui n'a ni clé ni serrure. Alors un autre inconvénient, et non des moindres, venait des chiens qui cherchaient aussi abri dans la cabane et se couchaient sur les épaules ou les pieds des dormeurs. Et en donnant un peu de chaleur, il dérobait le sommeil. Voici le texte du père Lejeune encore. « Comme on est souvent couché aussi bien qu'assis dans ces maisons d'écorce, ils nous passaient souvent sur la face et sur le ventre. S'il arrivait qu'on leur jetât un os, aussitôt c'était de courir après et à qui l'aurait, culbutant tous ceux qu'ils rencontraient assis s'ils ne se tenaient pas bien fermes. Ils m'ont parfois renversé et mon écuelle d'écorce et tout ce qui était dedans sur ma soutane. C'est de là que provenait la grande incommodité de ces animaux qui portaient le nez dans nos écuelles plutôt que nous y portions la main. Ils faisaient voler leur nourriture. Pauvres. Alors le reste était à l'avenant et les hommes n'étaient pas plus propres que les chiens. Le mets de régal, savez-vous ce que c'était? C'était fait de blé cueilli avant maturité, et que les femmes déposaient 3 mois durant, dans quoi? Dans une mare, ou dans une eau puante. Et les Amérindiens, au rapport du franciscain Sagard, écrit ceci, « Les Amérindiens léchaient leurs doigts au maniement de ces épis puants, de même que si c'était des cannes à sucre, quoique l'odeur en soit très puante et infecte, plus que ne le sont les égouts même. » Imaginez ce qu'il fallait de courage pour être missionnaire. Il ajoute, ça c'est le père Lejeune, « Tous venaient patouiller dans la chaudière où était notre boisson commune. Ils lavaient leurs mains, et un certain jour, des souliers venant d'être quittés tombèrent dans notre boisson. On les retira sans autre cérémonie, puis on but comme si rien ne fût arrivé. » Dans les débuts, les missionnaires durent s'accommoder de tout ça, des orgies, du temps d'abondance. Quand ils avaient un animal, ils mangeaient jusqu'à vomir. Ils ne savaient pas rien mettre de côté. Quand ils étaient en famine, ils étaient en famine. C'était la disette. Puis alors, il s'agissait de se soumettre à ça. Alors, il fallait vivre, comme on disait à l'époque, comme des sauvages, avec des sauvages, pour les amener au Christ. Parce que ces hommes courageux, disait Brébeuf, avaient d'énormes qualités. Ces Amérindiens manifestaient énormément de courage, de fierté, grande fierté, même leur façon de se tenir debout et de marcher. Ils avaient aussi beaucoup de désintéressement. Leur fierté les menait, quand ils étaient convertis, à être des martyrs au courage sans bornes. Mais leur humeur changeante, leur superstition, qui était soigneusement entretenue par les sorciers, ça a rendu longtemps la tâche des missionnaires extrêmement difficile. Le père de Brébeuf fut de longs mois rendu responsable d'une épidémie et sans sa fermeté d'âme, sans son audace, ben, il l'aurait massacré. Et les Hurons étaient à la fois les plus proches voisins des établissements français, les plus sociables, les plus sédentaires. Et c'est alors vers eux que se sont portés les premiers efforts des missionnaires. Mais l'insouciance des Hurons. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes pas mal insouciants. Alors on n'a rien à blâmer. Ne blâmons pas les Hurons, nous sommes insouciants nous-mêmes. Eh bien, l'insouciance des Hurons allait amener à quoi? À leur extermination comme peuple. Ils ont été, pour ainsi dire, anéantis. Malgré le travail des Jésuites. Par qui ont-ils été anéantis? Par les Iroquois, les Mohawks d'aujourd'hui, qui étaient beaucoup plus intelligents dans un sens, surtout plus rusés et beaucoup plus féroces. Et ils étaient soutenus par l'aide et le voisinage des Anglais qui étaient leurs amis, et les Flamands aussi, les Hollandais, ce qui rehaussait, fortifiait puissamment le courage de ces Iroquois. C'est ce que dit le père Jérôme Lallemand dans une lettre au cardinal Richelieu. Et nous verrons la guerre d'extermination qui les a mis aux prises et qui a duré près de 20 ans, de 1641 à 1660, et c'est dans cette période que périrent la plupart des martyrs de la Nouvelle-France, 6 jésuites et 2 laïcs, canonisés et fêtés en ce jour par l'Église et qui ont été massacrés entre 1642 et 1649. Et dès 1642, bien le père Isaac Jogues, qui était né à Orléans, on connaît l'histoire de Jeanne d'Arc, Orléans, en 1607, il était né en 1607, il n'était pas très âgé comme vous voyez, et bien, il avait 35 ans quoi. Dès 1642, c'est l'année de la fondation de Montréal, hein, je vous le rappelle. Il avait été pris par les Iroquois avec un convoi de ravitaillement qu'on l'avait envoyé chercher à Québec et puis à Trois-Rivières aussi. Il aurait pu s'échapper, mais c'était un chef avant tout. Alors il s'est livré, il est bousculé, il est assommé, il a les ongles arrachés, une phalange coupée à coups de dents. Quelques-uns de ses compagnons sont massacrés sur place et le reste avec le père Jogues rejoint dans un convoi absolument lamentable les villages des vainqueurs. Là, il est en butte aux avanies, c'est-à-dire aux les coups, hein, aux tourments de toutes sortes. Si vous avez vu dernièrement, à la télévision l'a représenté, là, le film « La robe noire »,« The Robe hein, », c'est un film, un drame historique hein, qui a été réalisé par Bruce Beresford. C'est un film canado-australien qui a été fait en 1991. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Il y a Lothaire Buteau qui joue là-dedans. Et ça se passe au temps de Samuel de Champlain, justement. C'est un missionnaire, un jeune père qui est envoyé en mission sur la rivière du Saguenay, tout ça, puis toutes les aventures qui lui arrivent. Ça nous donne une assez bonne idée dans ce film de ce qui a dû se passer dans ces avenues, car ils ont été, dans le film, on le voit comment ils ont été traités. Alors donc, ils ont des tourments de toutes sortes. Un guerrier veut couper le nez du père Jogues, mais hésite à deux reprises. Et au village d'Ossernenon, qui est monté sur un échafaud, là, le père Jogues assiste à la terrible danse du scalp. Les deux seules ongles qui lui restent lui sont arrachées. Une esclave chrétienne est contrainte de lui couper un pouce avec les dents. Alors après, les tortures de la journée viennent celles de la nuit. Là, les prisonniers sont attachés par les poignets, les chevilles, et tenus ainsi dans la position de Saint André sur sa croix. Vous savez, comme un X, là. Saint Isaac Jogues a écrit ceci. Il dit, quelle nuit demeurer toujours dans une position forcée, ne se pouvoir remuer ni tourner, être attaqué d'une infinité d'insectes qui vous assaillent de tous côtés, être couvert de plaies fraîches et d'autres en suppuration. N'avoir pas de quoi soutenir la moitié de sa vie. En vérité, ses tourments sont bien grands, mais Dieu est plus grand encore. Dieu est immense. Et cela dure 3 jours. Il se renouvelle dans les autres villages, et là, le père Jogues croyait être abattu. À la fin, là, comme le saint laïc René Goupil, un angevin, qu'il avait admis in extremis dans la compagnie. On peut le considérer, ce laïc, comme un jésuite, mais pas vraiment. Et... bon, disons que c'est un laïc Jésus. Mais Isaac Jogues a été réduit en esclavage. Et finalement, délivré par les Hollandais, oui, par les Hollandais, rapatrié par eux, il débarque finalement à Saint-Paul-de-Léon, en France, et il gagne Rennes, en Bretagne, là. Puis, il se rend finalement à Paris, où la reine Anne d'Autriche, qui est la fille du roi d'Espagne, Philippe III, c'est la femme de Louis XIII, c'est la mère de Louis XIV, eh bien, Anne d'Autriche a voulu vénérer ce martyr de la foi. Et au bout de 3 mois, eh bien, Isaac Jogues, jésuite admirable, obtenait de retourner au Canada. Ça s'appelait comme ça dans ce temps-là. Il est arrivé en juin 1644. Il se voyait bientôt confier une mission délicate auprès des Iroquois, qui étaient amis des Anglais. Et au souvenir du passé, sa nature tremblait, mais il ajoutait, « Oui, père, je veux tout ce que notre Seigneur veut, au prix de 1000 vies. » Il tomba, le crâne brisé, sous un coup de tomahawk, ainsi que le laïc Jean de Lalande, qui venait de Dieppe, lui. C'était en 1646. Normand et Dieppois, venant de Dieppe, et aussi c'est le père Daniel, Antoine Daniel, qui était adjoint au père Jean de Brébeuf, le 1er juillet 1634, pour aller faire connaissance avec la vie sauvage. Il est abandonné, séparé de son compagnon, puis il prend son sort de bonne humeur. Il s'initie à la façon amérindienne de manger de la viande. Voici ce qu'il dit. Que si la chair est un peu dure, il vous la tienne d'un bout avec les dents et de l'autre par la main gauche. Puis la main droite joue là-dessus du violon, se servant du couteau comme archet. Quelle étrange coutume, hein? Et ensuite, chargé d'instruire les petits peaux rouges, eh bien, il est en 1648 à la mission Saint-Joseph. Ça, c'est à la frontière iroquoise. Et le 4 juillet, bien, l'ennemi franchit la palissade du camp pendant la messe. Alors, celle-ci achevée, eh bien, notre père court baptiser les malades et revient à la chapelle où il est criblé de flèches, achevé d'un coup d'arquebuse et jeté dans le brasier de la chapelle en feu. Le père Jean de Brébeuf était normand aussi, comme une grande partie d'entre nous, n'est-ce pas? Il avait été envoyé à la mission dès 1625. Il avait vécu la vie des Hurons et appris leur langue, car il les aimait profondément. Et revenu en 1633, il fut un moment supérieur de la mission, mais il préférait s'immoler dans l'obscurité, par amour pour ses Amérindiens. Il partit alors pour la mission de Tenostaye, où, après des résultats merveilleux, il a été en butte à l'hostilité bien superstitieuse des sorciers. Ah, les sorciers! Si bien qu'on l'envoya évangéliser les neutres, on les appelait comme ça, ces Indiens-là, les neutres. Avec qui? Bien, avec le père Chaumonneau. Vous le connaissez peut-être pas, hein? Mais je vais vous en parler longuement le 21 février, car il est mort le 21 février 1693, après 40 ans de mission héroïque, ce père Chaumonneau, qu'on m'a appris à aimer, d'un monsieur Drolet de Québec qui m'a appris à l'aimer. C'est une odyssée fantastique que celle du père Chaumonneau. En tous les cas, la superstition et la crainte des sortilèges leur ont valu un accueil difficile. Et après quelques randonnées, ils ont découvert les chutes du Niagara, puis ils ont dû revenir encore. Et en cours de route, le père Brébeuf s'est brisé la clavicule gauche. ce qui fait extrêmement mal et comment porter des bagages. Et après 2 ans, il repart avec un convoi en 1644. C'est un héros fantastique. Il va ravitailler les missions lointaines qui sont toujours sur le qui-vive. Les travaux des missionnaires, le sang des martyrs commencent à porter leurs fruits. Et alors, les baptêmes se multiplient. Mais la nation Huronne, je vous l'ai dit, est vouée à l'anéantissement par les Iroquois, par les Mohawks. Car après chaque coup de main, chaque moment de courage, cette nation retombe dans l'apathie. On ne sait pas ce qui les habite, c'est très curieux. En 1648, le père de Brébeuf est à la mission Saint-Ignace avec le neveu du supérieur de la mission, le père Gabriel Lallemand, un Parisien récemment arrivé, qui va mourir à la fleur de l'âge comme il l'a désiré. Au matin du 16 mars 1649, eh bien, les Iroquois font irruption à Saint-Ignace et les pères sont à Saint-Louis, là, à 1 heure de marche de là. Ils ont juste le temps d'administrer quelques baptêmes avant l'arrivée des Iroquois. Et les Iroquois les dépouillent, leur arrachent les ongles et les amènent à Saint-Ignace. Et là, le supplice commence. Et je regrette de vous raconter ça, c'est terrible. Les martyrs s'exhortent les uns les autres. Alors on les sépare. Alors le père de Brébeuf est frappé de nombreux coups d'haleine, c'est-à-dire de poinçons d'acier, rougi au feu. On lui fend les lèvres pour l'empêcher de parler et d'exhorter les autres. On lui arrache le nez. Certains lui arrachent des lambeaux de chair qu'ils font rôtir. D'autres lui imposent un collier de haches rougies au feu et des hurons qui n'ont pas su résister et qui ont renié la foi catholique parodient alors le baptême en lui versant de l'eau bouillante sur la tête. Pas une plainte ne lui échappe. Le père de Brébeuf est vraiment extraordinaire. Alors les Iroquois, en l'achevant d'un coup de couteau, lui arrachent le cœur et le mangent pour épuiser sa force d'âme. Il est vrai qu'ils faisaient très souvent ça avec les chefs des grandes tribus quand ils les capturaient. Et c'était la coutume que l'on retrouve chez les Aztèques quand, ouvrant des milliers de jeunes gens de 20-22 ans sur leurs monuments, que l'on voit encore des monuments qui ont de nombreuses marches, les Aztèques offraient comme ça au Dieu Soleil le cœur vibrant de milliers de jeunes de 20-22 ans. Je vous parlerai de ça un jour, ces massacres épouvantables. Et le père Gabriel Lallemand, lui, a été tenu en réserve par les Iroquois, puis il a subi à son tour les mêmes tourments. Un frère coadjuteur a retrouvé leur corps, encore marqué des traces de leur martyr. Et quant au père Charles Garnier, c'était le nom du collège des Jésuites à Québec. Les Jésuites ont perdu tout leur collège. Collège Garnier. Collège Brébeuf. Le collège Loyola, le collège Sainte-Marie, le collège Saint-Ignace. Où sont nos jésuites? Où sont les vocations? Où sont les jeunes Québécois désireux de faire quelque chose de leur vie? Où sont-ils? Le père Charles Garnier, qui était parisien, lui aussi se réjouissait qu'il ait plu à notre Seigneur de donner la couronne de martyr à ses 2 confrères. Et son tour n'allait pas tarder, et alors, le 7 décembre de la même année, les Iroquois faisaient encore une soudaine irruption à la mission Saint-Jean. Ils ont massacré le père Garnier, tandis qu'il baptisait, alors qu'il baptisait. Et un de ses compagnons d'apostolat, le père Noël Chabanel, originaire du diocèse de Mende, où c'était un peu moins de 600 kilomètres de Paris, Mende, mais il est assassiné par un Huron renégat, encore un autre qui avait trahi. Pour pas les blâmer au fond, c'était de nouveaux chrétiens. Ils n'avaient pas le courage de ces jésuites, n'avaient pas reçu la même formation. Ils ont eu peur. Aurait-on peur? Aurions-nous peur? Alors il a été assassiné comme ça pendant qu'il regagnait, sur l'ordre de son supérieur, un poste moins dangereux. Et le 29 juin 1930, eh bien, l'Église catholique a canonisé ses 8 martyrs jésuites. Ils ne furent pas les seuls, même dans la compagnie, à verser leur sang pour le Christ. D'autres sont morts d'épuisement, tout simplement. Et leur sacrifice n'a pas été en vain. Car la nation huronne, il est vrai, elle a été anéantie par les Iroquois, mais bientôt, les Iroquois allaient recevoir des missionnaires. Ils se convertirent, eux aussi. Il y a eu de magnifiques résultats obtenus par tous ces apôtres au Québec, au Canada. Et le développement de la petite colonie catholique et française dont nous sommes au milieu des cette immense mer d'anglo-saxons protestants est toujours là. Mais où est notre foi? Nous sommes 7 millions et davantage. En Amérique du Nord, on dit que nous sommes peut-être 14 millions. Où est notre foi? Où est le Québec? Où allons-nous? Plus que partout ailleurs, le sang des martyrs a été la semence de notre foi. Et nous devons retenir les noms de ces gens. Je vous les redonne. Le père Isaac Jogg. Le laïc René Goupil. Le laïc Jean de Lalande. Le père Jean de Brébeuf. Le père Gabriel Lallemand, le père Antoine Daniel, le père Charles Garnier et le père Noël Chabanel. J'aimerais vous dire un mot des Hurons. Il est difficile, n'est-ce pas, de faire allusion à la vie sociale de ces Amérindiens qui étaient nos amis sans évoquer, comme l'écrit Maurice da Silva, dans Pierre vivante, numéro de 1993. C'est une revue, un bulletin qui est publié par le Comité des fondateurs de l'Église du Canada, qui est situé à la rue de la Cathédrale, à l'archevêché, c'est-à-dire à l'évêché de Montréal, là où habite le cardinal Turcotte, sur la rue de la Cathédrale, derrière la Cathédrale. C'est là qu'on peut se procurer Pierre vivante, donc le numéro de 93. Il y a un très beau texte de Maurice da Silva sur Jean de Brébeuf à la suite de la parution du magnifique livre du jésuite, le père René Latourelle, que je salue, que j'estime au plus haut point. Le père René Latourelle, que j'ai connu, que nous avions interviewé à rencontre, que j'apprécie beaucoup. Et cette biographie de Jean de Brébeuf devrait être lue par tout le monde. Alors, Maurice da Silva écrit, il est difficile de faire allusion à la vie sociale de ces Amérindiens, les Hurons, sans évoquer leur univers religieux. Tellement les deux sont imbriqués. La religion est comme diffuse dans tout le tissu social. Et pour les Hurons, la nature, l'espace, le temps sont sacrés. Ils les invoquent dans leurs maladies et leurs besoins. Mais croit-il en un être transcendant? Eh bien, le père Lejeune a écrit, lui, « Je ne sais pas leur secret, mais de ce peu que je vais dire, on verra qu'ils reconnaissent quelques divinités, au pluriel. » Brébeuf, qui leur fait confiance, lui ajoute plus clairement, « Il sera facile avec le temps et l'assistance divine de conduire ces peuples à la connaissance de leur Créateur. » Alors, au sein d'un univers où tout est sacré, comment les Hurons se représentent-ils l'origine du monde? Et, corrélativement, le terme de l'existence humaine? Maurice da Silva continue en disant, Brébeuf avance quelques réponses. Ils reconnaissent pour chef de leur nation une femme, qu'ils appellent Athéantic, qui est tombée du ciel. Sans entrer dans le détail de ce mythe, précisons que Athéantic a les fonctions de la lune et est le génie du mal, alors que Yuskeka a les fonctions du soleil et entretient la vie. Les deux personnages mythiques n'ont pour fonction que d'expliquer les origines de la nation. Après leur action organisatrice, ils président au village des morts. Outre les funérailles individuelles, il y a, tous les 12 ans, une fête des morts, qui a pour objet de faire l'unité. Et lors de cette cérémonie finale, tous se rendent à une fosse commune, groupée par famille et par village. Et après un chant funèbre, la fête se termine par une distribution de présents. Brébeuf voit dans cette cérémonie funèbre une marque assez claire de l'espérance d'une vie future. Et il dit, il ne manque à ce culte des morts que le sens ultime donné par le Christ, achèvement de la vie mortelle et achèvement à la vie éternelle. Et Brébeuf, au cours des 4 années de son supériorat, de 1634 à 1638, s'applique par l'exemple de sa vie à donner l'image de l'authentique apôtre. Instruction ou catéchisme, mais surtout témoignage silencieux de la charité auprès des malades. L'exemple que nous laisse, en somme, Brébeuf est fantastique. Je lis ce texte parce qu'on devrait se modeler sur lui. Après avoir choisi un premier site stable d'où il pourra rayonner, il estime en mai 1637 que 2 autres résidences permettraient de se rapprocher davantage des Hurons. Et il commence son travail d'évangélisation en enseignant le catéchisme par la méthode audiovisuelle, comme il le faisait jadis dans les cathédrales du Moyen-Âge. C'est alors que, revêtu du surplis et de la barrette pour souligner la transcendance du message, il commence par faire chanter le pater. Puis, après avoir récapitulé la leçon précédente, s'il y a lieu, il explique un passage nouveau, interroge garçons et filles, et récompense par des prix les bonnes réponses. Alors, la leçon se conclut par le discours des anciens, lesquels exposent leurs propres difficultés. Toute cette mise en scène finit par obtenir des résultats bénéfiques, si l'on en juge par l'aveu que fait Brébeuf au général de la compagnie en 1637. Voilà ce que Brébeuf écrit, c'est très beau. « Les Hurons ont enfin reconnu à nos actions et paroles que nous sommes venus en ces lieux, non pour acheter des pelleteries ou faire du commerce, mais à seule fin de les instruire et de les gagner au Christ, de leur procurer la santé de l'âme, et finalement, la vie éternelle et immortelle. » Maurice da Silva continue en disant, « Comme l'agir est garant de la pensée, la conduite doit témoigner de la foi. Aussi, quand les Hurons demandaient à Brébeuf ce qu'ils devaient faire pour servir Dieu, celui-ci répondait, « Quitter la croyance qu'ils avaient à leurs songes. Quitter, en somme, nos horoscopes, nos gens qui nous prédisent l'avenir, nos gens qui nous racontent n'importe quoi, des songes, quitter ça. » Deuxièmement, assurer la stabilité de leur mariage et garder la chasteté conjugale. Troisièmement, s'abstenir des festins où l'on mange jusqu'à vomir. Éviter d'aller dans ces restaurants où on mange d'une façon invraisemblable et inutile. S'abstenir, se contrôler, quoi. C'est Brébeuf qui parle aux Amérindiens. Il nous parle aussi à nous, en 1995. Quatrièmement, Brébeuf dit qu'il faut renoncer aux assemblées impudiques d'hommes et de femmes. Cinquièmement, ne pas manger de la chair humaine. Or, ces observances morales, qui étaient contraires aux traditions huronnes, étaient dures à observer. C'était pas étonnant que le père Jérôme Lallemand porte sur ses coutumes un jugement sévère. Pour lui, la huronie, dit-il, est une des principales forteresses du démon. Et le père Ragneau dit, bien, lui était plus compréhensif, il compte sur le temps pour faire évoluer les comportements. En somme, dans ce contexte de grande persécution, Brébeuf a prononcé le vœu du martyr, il a le pressentiment de son heure du grand don. Il dit, « Quand j'aurai reçu le coup de mort, je m'oblige à l'accepter de votre main avec tout l'agrément et la joie de mon cœur, Ô mon Jésus, ô aimable Jésus, je vous offre dès aujourd'hui, dans les sentiments de joie que j'en ai, et mon sang, et mon corps, et ma vie. Si nous vivions comme lui, nous nous offririons entièrement comme ça. Le courage manifesté par Brébeuf durant son supplice n'a pas été improvisé. Au cours de sa retraite annuelle, le 18 août 1645, il s'était engagé par vœu à accomplir tout ce qui lui paraîtrait, dit-il, devoir contribuer à la plus grande gloire de Dieu. C'est le motto, si on peut dire, des jésuites. On mettait ça sur nos devoirs au collège. Ad maiorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Et ce vœu du plus parfait, seuls quelques âmes d'élite l'ont prononcé en Nouvelle-France. Il y a Marie de l'Incarnation, dont je vous parlerai avec grand joie, le père Chaumonneau, je vous l'ai dit, je vous en parlerai, et Catherine de Saint-Augustin, dont je vous ai déjà parlé. Les jésuites qui ont œuvré en Huronie ont réussi à implanter la foi chez un peuple qui venait de loin, mais dans des conditions bien difficiles. On pourrait en faire autant aujourd'hui, nous qui venons. D'où? On se demande aujourd'hui d'où nous venons, tellement nous sommes déchristianisés. La formation spirituelle reçue par Brébeuf au cours de son noviciat, il l'avait puisée dans les évangiles et dans les exercices de saint Ignace, et Maurice da Silva dit, c'est là qu'il a appris à servir le Christ crucifié. Il termine en disant, puisse, nous, chrétiens d'ici, du Québec, qui voulons approfondir la spiritualité de nos fondateurs, puissions-nous nous ressourcer dans des livres qui nourrissent l'âme. Et peut-être faudrait-il lire le livre du père Latourelle sur Brébeuf, et lire aussi les relations des jésuites.